tous les matins, le trio habituel, Suzanne Botin, Nathalie Stas, Laurent Seine, avec Xavier Watley, Francis Willems. À la technique, nous sommes là, au poste, fidèle, hein, pour vous éclairer, vous interroger, peut-être même vous répondre en direct autour de préoccupations quotidiennes de tous ordres. C'est tout autre chose. Thèmes que nous abordons, eh bien certains suscitent énormément de questions pratiques. Ainsi, notre émission sur la géobiologie et la bioconstruction vous avez visiblement laissé très nombreux sur votre faim. Nous revenons donc ce matin sur la relation entre l'habitat et notre bien-être, et plus précisément sur l'impact des nuisances intérieures, parfois insoupçonnées, parfois montées en épingle, les fameux acariens, l'humidité, les animaux, les plantes vertes, et puis aussi les pollutions électriques, comment réagissent nos défenses naturelles, notre fameux système immunitaire à tous ces facteurs qui sont cités soit bien par des éco-conseillers, des géobiologues comme on les appelle, ou par des médecins. Eh bien, nous avons invité les deux pôles ce matin. Benoît Loupe est éco-conseiller, technicien chimiste et spécialiste des pollutions électromagnétiques, et Olivier Michel est médecin interniste, spécialiste en immuno-allergologie de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Et puis bien sûr vous au téléphone, c'est toujours le 02 737 26 06, 02 737 26 06. On démarre ce matin. Notre système immunitaire a pour fonction de nous prémunir contre les infections et autres agressions, mais on sait que ces défenses naturelles peuvent se trouver altérées par différents aspects de notre mode de vie, notamment en matière de conception de l'habitat, toxicité de certains produits et matériaux utilisés, pollution électrique liée au fameux champ électromagnétique. On en parle donc ce matin. Olivier Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin interniste, spécialiste en immuno-allergologie. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est. Je crois que les termes immunologue n'existent pas en Belgique.
La spécialité d'immuno-allergologue n'est pas une spécialité reconnue en Belgique. Et il faut bien dire qu'au niveau de la communauté européenne, il n'y a que deux pays qui ne reconnaissent pas cette spécialité pour l'instant. Et entre autres, la Belgique en fait partie.
Donc en France, en Angleterre, on parle d'immunologue.
Voilà, il y a des formations plus ou moins approfondies, parfois très approfondies. Et donc là, on parle d'immuno-allergologue. En Belgique, on parle d'interniste ayant pris une orientation dans ce domaine, voire d'autres spécialités qui sont également fort proches de l'immuno-allergologie, comme les pédiatres ou les dermatologues.
Et votre spécialisation, ce sont donc les défenses naturelles, notre système immunitaire.
Voilà.
La manière dont notre corps se défend
naturellement. Se défend bien, ou de trop, ou pas assez.
On va essayer de développer, de comprendre toutes ces nuances. Alors, selon vous, si l'on aborde de plus en plus l'habitat en relation avec la santé, c'est lié à quel phénomène? Est-ce que c'est vraiment l'évolution de notre mode de vie, ou bien les scientifiques ont découvert plus en plus de facteurs?
Je crois que cet intérêt repose sur des données, sur des faits établis très très simples. Depuis une trentaine d'années, on assiste à une vraie épidémie de maladies allergiques, entre autres respiratoires, mais également cutanées, en particulier chez l'enfant. On a observé, et c'est une donnée très simple, que nous vivons plus de 90% du temps dans l'habitat, et donc assez logiquement on s'est intéressé aux modifications de l'habitat depuis 30 ans pour essayer d'expliquer cette véritable épidémie de maladies, entre autres allergiques.
Et les plus grands facteurs, sources de problèmes de maladies allergiques ou autres?
Eh bien, très simplement, il semble que l'occidentalisation de l'habitat, finalement sa modernité, apporte certainement des améliorations en termes de confort, mais est également associée à une augmentation du risque de ces maladies, entre autres allergies.
Donc vous êtes sensible à certains phénomènes, comme la bioconstruction dont on parle de plus en plus, les matériaux qui évoluent. En tant que médecin, vous observez tout cela, ou bien...
Mais certainement, tous ces phénomènes sont multifactoriels. Ça signifie qu'il y a un grand nombre de causes possibles pour expliquer une maladie déterminée. Toutes ces causes doivent être analysées séparément, voire de façon conjointe. Et certaines d'entre elles ont pu, à ce stade, être clairement identifiées comme facteurs de risque pour un enfant ou pour un adulte, d'ailleurs, de développer des maladies allergiques. Les facteurs qui sont isolés et qui sont réellement démontrées sur le plan scientifique représentent sans doute une petite fraction des facteurs potentiellement capables d'induire ce type de maladie.
Benoît Loupe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éco-conseiller technicien chimiste, spécialiste de pollution électromagnétique. Vous étiez venu pour parler de la bioconstruction et de la géobiologie. On va peut-être plus parler de pollution électromagnétique que vous considérez comme une source d'altération de nos défenses naturelles. Vous avez un médecin en face de vous, donc on pourra confronter vos avis. On peut peut-être rappeler que tout ce qui est géobiologie et la prise en compte de l'habitat n'est pas récente. Hein. Les Chinois, les Romains...
Oui, bien sûr. 2500 ans avant Jésus-Christ, déjà les Chinois s'occupait d'étudier cette influence de l'environnement sur le vivant. C'est clair qu'aujourd'hui, avec toutes les données scientifiques que nous possédons depuis plus de 30 ans sur les effets au niveau de la santé des champs électromagnétiques, on a un recul suffisant pour pouvoir assurer un dépistage, un contrôle et techniquement régler des problèmes qu'on peut rencontrer dans l'habitation avec un certain résultat tout de même à court terme.
Donc vous, peut-être, c'est plus la chambre à coucher dont vous parlerez?
Bien sûr.
Monsieur Michel, les pièces dans lesquelles il faut peut-être être le plus vigilant avant de démarrer avec tous les pôles de pollution intérieure, c'est pour vous, c'est quelles pièces ou...
Ce sont les pièces... que l'on occupe le plus souvent, c'est-à-dire effectivement la chambre, mais également le salon, voire la salle de jeu pour l'enfant, voire la cuisine pour la ménagère. Certainement toutes les pièces dans lesquelles on vit longtemps.
Nous ferons une visite guidée de l'habitat avec bien sûr vos questions auxquelles on essaiera de répondre. 02 737 26 06. Docteur Michel et Benoît Loupe restent avec nous jusqu'à 11h. Jacques Brel arrive avec
Jojo. Voici donc quelques rires.
Le rôle dans l'allergie date de 1964. Bien entendu, on connaît l'existence des acariens, qui sont des arthropodes depuis bien, bien plus longtemps. Mais donc, ça fait seulement une bonne trentaine d'années que l'on connaît leur rôle dans certaines manipulations allergiques.
Mmh. Ils sont présents donc dans quelle matière dans...
Si on en parle beaucoup, c'est parce que le climat belge, le climat d'Europe du Nord humide, convient bien à la croissance des acariens. Si vous allez plus au Nord, vous n'aurez plus d'acariens. Si vous allez également au Sud, vous n'en aurez pas non plus. Et donc nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'acariens parce que notre climat favorise la croissance de ces animaux microscopiques. Maintenant, où les trouve-t-on? Eh bien, partout où il fait humide et chaud. Et donc, la croissance des acariens, donc le passage du stade œuf au stade adulte, prend moins de 3 semaines dans des conditions d'humidité et de température adéquates. Et ces conditions, on les rencontre de façon parfaite au niveau du matelas. Et c'est pour cela que l'on trouve au niveau de la literie le maximum d'acariens et plus particulièrement d'antigènes d'acariens, responsable de certaines formes d'allergie.
Alors quand on voit les images grossies de ces bêtes, hein, ça fait remonter pour nous dégoûter, mais on peut dire quand il y a un ou deux acariens dans une maison, il y en a des milliers. Donc à partir du moment où on a des acariens dans notre chambre à coucher, c'est pas de quelques-uns dont on peut parler.
Donc effectivement, on va trouver des milliers d'acariens, vivants ou morts. Il faut bien savoir que ce n'est pas l'acarien lui-même qui va être responsable de l'allergie, mais bien les différentes substances qu'il produit au cours de sa vie. Maintenant, il faut aussi être tout à fait raisonnable et conscient qu'il n'existe pas d'habitat dans notre pays où il n'y ait pas d'acarien, où il n'y ait pas de contamination microbienne ou par des insectes microscopiques.
Ces contaminations microbiennes et bactériennes, elles peuvent aussi se trouver dans le frigo. C'est vrai qu'on parle toujours de nettoyer son frigo. Comment notre système immunitaire, comment nos défenses naturelles peuvent-elles être altérées par ce genre de contexte, des acariens tout petits, des bactéries très, très minuscules dans un frigo, dans une cuisine?
Eh bien, il faut bien savoir que chez l'enfant, quand l'enfant naît, son système immunitaire n'est pas mature. Il doit se développer, comme l'enfant doit se développer sur d'autres plans. Et donc, il faut que l'enfant puisse aboutir à une maturation de son système immunitaire. Et pour accomplir cette maturation, il doit rencontrer dans les premières semaines de sa vie, il doit être en contact avec toutes sortes d'antigènes microbiens, donc de substances bactériennes et microbiennes. Et une des hypothèses, c'est que notre habitat, qui est de plus en plus aseptisé, ne permet pas à l'enfant d'être en contact tôt dans sa vie avec certains agents microbiens. Et donc ce serait peut-être un trop propre, une habitation trop propre qui finalement favoriserait dans les sociétés occidentales une immaturité du système immunitaire de l'enfant et plus tard favoriserait l'apparition de certains troubles allergiques pour des raisons très complexes mais qui commencent à être vraiment très bien connues.
Donc ne pas être en contact avec les microbes assez tôt et donc quand on les côtoie, le choc est trop violent.
Le choc est trop violent et l'enfant n'a pas pu développer un système, je dirais une réponse adéquate dans sa toute petite enfance par rapport à ces substances produites par les microbes.
Alors, sans dramatiser, les personnes qui sont allergiques le savent en général. Ça se déclare par quel genre de symptômes et comment peut-on savoir si notre manière de vivre peut avoir de retombées pratiques sur notre santé. Par exemple, quels symptômes vous pouvez détecter des...
Alors, les symptômes débutants sont en général ce qu'on appelle de la rhinite, c'est-à-dire une sorte de rhume permanent qui se manifeste par des éternuements, par une obstruction du nez. Et puis le stade suivant, quand la maladie progresse et progresse vers les voies respiratoires inférieures, on assiste à des symptômes de type respiratoire. Et le premier symptôme qui en général apparaît, qui est très important, c'est une toux. C'est de la toux pendant la nuit ou au moment du réveil, en fin de nuit. Ça, c'est un symptôme qui doit faire suspecter l'existence d'une atteinte des bronches et d'un asthme tout à fait débutant. Une toux nocturne est vraiment un symptôme fondamental, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte.
Une toux nocturne qui peut être liée donc, aux conditions de notre habitat. Donc la première question
exactement,
que vous posez, c'est quelle question alors à des personnes qui présentent ces symptômes ?
Eh bien, la première question, c'est de confirmer le diagnostic d'asthme par des techniques que l'on a à l'hôpital, et puis trouver la cause de cet asthme. Et dans 80% des cas, cette cause est d'origine allergique. Et c'est vrai que les acariens sont un des antigènes de l'habitat qui joue un rôle primordial dans l'allergie respiratoire en Belgique. Maintenant, il y a deux autres grandes causes allergéniques, donc allergiques, on va dire.
L'humidité. Non.
Les deux autres causes sont la présence d'animaux, en particulier du chat. Et la troisième, qui est sans doute moins connue, mais qui est certainement un facteur important dans des grandes villes, ce sont les blattes, ce sont les cafards.
Les cafards, oui.
Et donc on observe, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, dans des villes de climat similaire, plus de 25% de patients asthmatiques qui sont devenus allergiques aux cafards, même s'ils nous disent qu'ils n'ont pas de cafards chez eux. Il faut bien se rendre compte que ces insectes, qui eux sont bien visibles, vivent souvent cachés. Que l'on peut donc être exposé à son insu à ce type d'allergène.
Donc parfois dans le tube de refroidissement du frigo, c'est là que les cafards peuvent se nicher, mais à d'autres endroits aussi, on ne va pas faire un détail des habitations des cafards. Mais puisqu'on parle des allergènes, on ne parlera pas que de ça. Avec Benoît Loup, tout à l'heure, on peut déjà dire qu'il existe une fondation pour la prévention des personnes allergiques, ici à Bruxelles. Il y a des permanences téléphoniques, donc des personnes, des mamans, je crois, d'enfants allergiques qui répondent aux questions. On va donner le numéro de téléphone et les heures de permanence juste après la pause que l'on va marquer maintenant. Comme ça, vous avez le temps de prendre votre bic et un papier. La pause, c'est Lorraine Hill et Bob Marley, Turn Your Lights Down. On vous rappelle le numéro 02-737-2606.
Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl. Some love. I want to give you some good love. Oh, I want to give you some good love. Turn your lights down low.
try to resist. Oh no,
na na na.
Oh, let your love come shining in.
Song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day, and every chorus was written for us to recite,
right.
Every beautiful melody of devotion every night, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me, in every word, every second and every third, expresses a happiness more clearly than ever heard, and when I'm playing, every chord is a poem, telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes.
Yes, yes.
Stand in love, take my hand in love, Jah bless.
Right,
yes.
Yes.
Right.
I want to give you some good, good loving.
Sur la première, bonne matinée. Nous sommes là donc jusqu'à 11h avec toute autre chose pour évoquer l'habitat et la santé, le bien-être. Les gens sont parfois convaincus que le problème vient du dehors, que la pollution est extérieure, et ne sont pas conscients de l'importance d'une bonne qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Pourtant, le mode de vie occidental nous amène à passer bien plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un extrait d'une parution justement de la Fondation pour la prévention des allergies que l'on évoquait avec le docteur Michel. Alors, on a un numéro de téléphone et les permanences téléphoniques se font 2 jours par semaine, donc les mardis et jeudis à partir de 10h30, entre 10h30 et 16h30. Le numéro de téléphone, docteur Michel, vous pouvez peut-être le donner. Non, je le donne, je l'ai sous les yeux, le 02 511 67 61. 02 511 67 61. Puis il y a une revue aussi qui est très, très pratique, en tout cas pour les personnes allergiques, et qui peuvent concerner pas seulement les familles d'allergiques, hein, avec des conseils de bon sens, les différents facteurs, le frigo, les animaux. Vous parlez des chats, les chiens en général. Christiane de Bruxelles nous a posé cette question, la multiplication des chiens dans les immeubles, dans les habitations, est-ce que ça peut vraiment être une cause sur notre santé, si on n'est pas forcément sensible à des problèmes respiratoires? Est-ce que c'est...
Donc, bien entendu, pour développer des symptômes au contact d'un chat, d'un chien ou d'autres mammifères, il faut auparavant avoir développé des anticorps. Donc, c'est être sensibilisé vis-à-vis de l'animal. Et donc, ça ne concerne que la partie de la population qui est sensibilisée vis-à-vis d'un animal.
On est allergique normalement soit au chat, soit au chien.
Non, on peut être sensible aux deux animaux, voire à d'autres animaux. En général, cette sensibilisation est favorisée par le contact prolongé, à condition d'être soi-même prédisposé génétiquement, donc d'être né avec des chromosomes qui favorisent l'apparition de certaines allergies.
Et la personne en contact avec un chien ou un chat dès son plus jeune âge, dès qu'il est bébé, est-ce que ça peut renforcer ou bien...
Certainement, la réponse est oui, de façon formelle.
Quoi, renforcer les risques d'allergie,
oui,
ou renforcer...
Une exposition précoce dans la vie et intense à un allergène, quel qu'il soit, que ce soit aux acariens ou aux protéines d'animal, comme le chat ou le chien, favorise l'apparition de symptômes de type allergique précoce dans la vie.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'un habitat trop propre, parfois justement, n'habituait pas notre corps à nous défendre. Là, si l'enfant est en contact avec le chien, peut-être qu'il peut justement se défendre et être prêt à...
Mais certains enfants, effectivement, les enfants dits atopiques, c'est-à-dire qui ont les chromosomes adéquats pour un jour développer des allergies, vont se défendre de façon inappropriée, vont trop se défendre vis-à-vis des allergènes. Finalement, l'allergie, ce n'est pas un déficit de l'immunité, c'est une réponse immunitaire qui est amplifiée, anormalement amplifiée, beaucoup, excessive. Et donc, ces enfants vont développer une réponse anormalement ample.
Alors, vous déconseillez aussi, docteur Michel, je pense tous les spécialistes, d'être trop propre dans la préparation de la chambre du bébé. Il vaut mieux ne pas utiliser des matériaux trop récents, donc attendre que le bébé soit revenu de l'hôpital pour faire les transformations dans la chambre. On dit une nouvelle tapisserie, une nouvelle moquette. On déconseille ça pour les nourrissons.
Je crois qu'il faut avoir une chambre, de façon très générale, qui soit sèche et relativement chauffée. En tout cas, il n'y ait pas de source d'humidité, il n'y ait pas d'eau.
Et un délai aussi après la rénovation, non ?
Non, je pense qu'au plus vite, au mieux. En tout cas, que l'enfant ne soit pas exposé à tout ce qui est allergisant. Donc, on a parlé des acariens, des animaux. Tous ces allergènes doivent être exclus de la chambre de l'enfant dès son retour de la maternité.
Mais on reviendra à tout cela, hein, s'il y a des questions d'auditeurs. Benoît Loupe, vous êtes avec nous pour répondre à des questions. On va directement accueillir une question d'auditrice. C'est Anne Charles de Wezembeek. Anne, bonjour. Anne n'est plus là, peut-être. Ah, allô? Anne voulait nous parler de son habitation qui se trouve à 50 mètres d'une antenne GSM, Benoît. Alors l'influence sur la santé, on entend beaucoup de choses sur les GSM portables, mais l'antenne, aussi peut-être nous expliquer votre point de vue et puis celui du docteur Michel après, qui n'est pas le même, je crois.
Bon, d'abord, il faut rappeler que l'antenne relais que l'on voit parfois surplomber un bâtiment est une antenne qui émet des micro-ondes, dans la bande généralement des 900 MHz, mais plus récemment, nous avons des antennes également dans la bande des 1800 MHz. Il faut savoir que cette bande de fréquence donc de micro-ondes pulsées, qui sont des micro-ondes qui sont émises d'une manière tout à fait particulière et avec une modulation assez particulière aussi en basse fréquence 217 Hz, est en réalité une émission qui n'est pas une émission thermique. Donc il n'y a pas d'échauffement possible dans les tissus. Il faut savoir qu'actuellement, les seules recommandations qui sont données en la matière sont des recommandations qui ne concernent que l'effet d'échauffement. C'est un peu maigre, sachant que la population peut être exposée en permanence à une radiation dont on connaît une partie des effets au niveau de la santé. Les dernières études que nous avons australiennes, toutes récentes, démontrent que pour une exposition chronique déjà à des intensités supérieures à 0,1 micro, donc millionième de watts par centimètre carré, il y a des affaiblissements immunitaires. Il en résulte parfois des irritations cutanées, au-delà par exemple de 10 microwatts, comme ça a été démontré dans l'étude de Lilienfeld. Il faut rappeler que l'ambassade américaine en Russie a été bombardée par des micro-ondes et que ces gens ont eu des pertes de cheveux, des irritations de la peau, et c'est ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes.
Donc là, vous parlez du portable, hein?
Non,
de des antennes.
Mm-hmm. Le portable émettant une densité de puissance à 30 ou 40 cm qui peut être supérieure à 1000 microwatts par centimètre carré. Donc là, l'exposition est encore bien plus importante. Mais l'exposition au GSM n'est pas la même puisqu'il y a un effet d'échauffement, un effet thermique en plus, et puis on est libre d'utiliser son GSM durant le temps que qu'on le souhaite, tandis qu'une antenne, on est exposé en permanence.
Clairement, qu'est-ce que les études disent?
Alors les études scientifiques indépendantes, hein, donc je précise scientifiques indépendantes, sont claires, c'est-à-dire que à long terme, on ne peut pas de manière définitive donner un avis, je dirais, clair au niveau de l'influence néfaste des antennes, mais on peut dire qu'en tous les cas, ça favorise le développement de certaines maladies. Cet affaiblissement immunitaire peut varier d'une personne à l'autre. Il y a un facteur individuel de sensibilité. Mais si vous êtes exposé à des facteurs chimiques dans votre profession et que vous êtes exposé en même temps à ces micro-ondes pulsées, vous allez avoir un effet promoteur beaucoup plus important. Ces champs et ces facteurs vont s'additionner les uns aux autres et les gens peuvent se sentir très très mal avec des céphalées et des migraines chroniques.
Vous n'êtes pas médecin, on va peut-être poser la question au docteur Michel qui est spécialiste en immunoallergologie. Que pensez-vous de ces phénomènes? On vous en parle sûrement beaucoup dans votre cabinet, docteur Michel. On parle des portables, des antennes.
Mais je dirais finalement tout.
Vous vous référez à quelles études, vous, à quelles.
Mais en tout cas, dans la littérature, je dirais de type scientifique, il n'y a pas de démonstration formelle que ces différents champs électromagnétiques soient associés, simplement associés à des troubles respiratoires ou cutanés, ou de type, on va dire, allergique, parce que finalement, ce sont ces problèmes-là qui concernent la plus grande partie de la population, environ 25% de la population belge. Et donc, pour nous, nous savons évidemment que les progrès technologiques qui sont là dans notre société peuvent être ce qu'on appelle des facteurs confondants, c'est-à-dire être associés à des épidémies de toutes sortes de troubles. En réalité, ce n'est pas l'onde elle-même ou d'autres, tout ce qu'on veut, ce n'est qu'un hasard, c'est une association de hasard. Et donc, pour démontrer, par exemple, qu'une antenne de GSM est capable d'induire des troubles de santé, il faut non seulement que l'utilisateur du GSM qui produit ces ondes, ou bien la personne exposée à l'antenne produisant ces ondes, développe des troubles de santé. Mais la deuxième condition, il faut que lorsqu'on corrige l'anomalie environnementale, les troubles disparaissent. Et ça, à ma connaissance, en tout cas pour tout ce qui est électromagnétique, il n'y a aucune démonstration. Alors que, prenons simplement l'exemple du chat, ça c'est très simple à comprendre, vous êtes allergique au chat, vous avez un chat chez vous, vous développez de l'asthme quand vous êtes en contact avec votre chat. Ça, c'est la première phase de la démonstration. Le deuxième point, vous supprimez le chat, vous allez mieux. Et donc, pour tout ce qui est, environnement électromagnétique, je pense qu'il faut apporter cette deuxième condition. On corrige l'environnement et on voit les troubles qui disparaissent.
Mais le discours de certains spécialistes, c'est tant qu'on n'est pas certain, autant quand même prendre toutes les précautions, enfin, quand on le peut.
Premièrement, une réponse courte.
Oui.
On n'a peut-être pas les mêmes sources d'informations scientifiques. Je peux vous dire que les informations que nous avons sont des informations tout à fait scientifiques, publiées dans des grandes revues.
Mais il y a des études comme M. Michel.
Oui, bien sûr. Maintenant, il faut voir qui crédite ces études également. Donc là, je parle au niveau de l'indépendance des chercheurs. C'est quelque chose de très important aussi. Il faut savoir que nous constatons, quand nous supprimons l'influence d'un champ électromagnétique, qu'en l'espace d'un mois ou deux, les personnes se sentent tout de suite beaucoup mieux, ont un sommeil beaucoup plus réparateur et les symptômes disparaissent de manière claire et définitive. Ça, réellement, nous le voyons sur le terrain et nous le voyons en collaborant avec des médecins.
Mais c'est cautionné, non pas.
Et c'est cautionné par nos collègues médecins qui le voient. Donc, mais ce sont des choses que l'on peut observer sur le terrain.
Mais ce n'est pas généralisé.
Ce ne sont pas toujours des cas cliniques. Donc là, il faut faire aussi la différence. Mais,
et l'intervention peut-être aussi du psychosomatique à ce moment-là.
Oui, mais vous savez, quand vous supprimez l'influence électrique d'une lampe de chevet en la débranchant, et que cette personne retrouve en l'espace de 4 ou 5 jours, parce que sa glande pinéale peut refonctionner, un état de sommeil beaucoup plus réparateur. Vous savez, même sur des animaux, au niveau des bâtiments d'élevage animalier, nous constatons des résultats très rapides quand ces animaux ne sont plus soumis à un stress électrique ou électromagnétique. Donc là, ce n'est pas un effet placebo.
Monsieur Michel, une réaction ?
Mais je crois qu'il faut être très très prudent dans le domaine des allergies, donc qui concerne, je répète, 20% de la population belge. Il y a certainement un effet placebo important pour toutes sortes de traitements qui peuvent être proposés à ces patients. Et je prends simplement comme exemple les traitements désensibilisants, qui sont des traitements efficaces dans les études qui démontrent ça de façon formelle. On ne discute plus ça, c'est vraiment bien démontré maintenant. Il y a toujours ce qu'on appelle un groupe placebo, c'est-à-dire un groupe de patients qui reçoit des injections d'eau salée, de rien en fait. Et bien dans ce groupe qui reçoit des piqûres de rien, on voit 40-50% d'amélioration des symptômes. Et donc, il faut être vraiment très, très prudent, parce qu'il y a tout un aspect subjectif dans ces troubles qui, finalement, sont, somme toute, fort, fort communs.
Et chacun, il retiendra ce qu'il a envie de retenir. Le psychosomatique aussi, bien sûr, très, très important dans les allergies, l'asthme. Nous sommes toujours là, donc, pour parler de pollution intérieure, fatigue, maux de tête, infection respiratoire, dépression, quelques-uns des maux que peuvent provoquer notre habitation. Parfois pas forcément dans notre habitation, parfois plus de manière psychosomatique, comme on l'a dit, mais certains matériaux comme le béton, c'est qu'il est imperméable aux ondes, le métal qui participe à une certaine pollution électromagnétique. Monsieur Loup est en train de nier tout ce que j'ai dit, il réagira après. Le plâtre et le ciment peuvent contenir du radon, la laine de verre contient des particules nocives à la santé. Le PVC renfermerait des dérivés du chlore, sans oublier la célèbre amiante. C'est une certaine documentation que j'ai trouvée. Vous n'êtes pas d'accord avec cela, monsieur Loup. Donc, peut-être un mot sur les différentes études. Donc, on entend les antennes GSM, les téléphones portables. Monsieur Michel, vous disiez hors antenne, il a fallu 20 ou 30 ans pour démontrer que la cigarette provoquait le cancer. Donc, tant qu'on n'est pas certain des études, il faut peut-être
L'autre exemple que vous venez de citer, c'est l'amiante. C'est vrai que dans les années 70, on a utilisé l'amiante pour isoler toutes sortes de bâtiments, y compris de la Commission européenne. Il a fallu 20 ans pour vraiment démontrer que l'utilisation de ce type de matériaux était associée à un réel risque de santé important. Et donc ici, les GSM sont utilisés depuis 2 ans, 3 ans de façon massive. On ne peut pas exclure de façon formelle que dans 20 ans, on ne verra pas une épidémie d'un problème de santé.
Et pour le grand public, c'est très, très difficile de s'y retrouver. On entend des études opposées, des conseils tout à fait différents. Donc on dit le GSM, pas l'utiliser dans la voiture. On parle du fait de cuisson du cerveau. C'est ce qu'on entend régulièrement. Monsieur Michel, vous, comment vous réagissez par rapport à cela?
Moi, je pense que dans la voiture, le GSM, le principal risque, c'est de faire un accident parce qu'on ne garde pas la route devant soi. Ça, c'est le plus grand risque.
Puis le phénomène de la cage de Faraday aussi par rapport...
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le risque est important de risquer un accident. Bêtement, de toute façon, c'est interdit de téléphoner avec son GSM en voiture. Ça, il faut le savoir, il faut un kit main libre. Donc là, on peut mettre l'antenne loin à l'arrière. On peut évidemment ne pas être exposé à l'antenne du GSM. Il faut savoir que la voiture, c'est une cage de Faraday aussi dans laquelle peuvent se concentrer les ondes. Donc l'utiliser le moins possible, c'est quand même prudent.
Et à nous, sur l'endroit où on peut placer notre GSM, donc on nous a dit... Pas dans la poche de la chemise avant parce que c'est trop près du cœur, pas dans la poche arrière.
Oui, alors il faut distinguer.
Expliquez-nous.
Oui, il faut distinguer le GSM en stand-by, en attente, qui cherche son antenne toutes les 10 minutes, donc si vous vous déplacez, et qui a donc une émission électromagnétique brève, courte,
donc
et
faible. Donc le GSM
allumé. Oui, en stand-by, donc en attente d'appel. Et quand il est allumé sur on, au moment où vous recevez l'appel...
S'il est en appel, il est rarement dans notre poche, il est près de notre oreille.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, par là, vous pouvez l'avoir en attente. Donc, il capte une antenne relais, et à ce moment-là, il est prêt à recevoir des appels à tout moment. Si vous le coupez, à ce moment-là, vous n'avez donc plus de possibilité de recevoir vos appels. Mais au-delà de ça, vous avez l'appel lui-même qui apparaît lorsque vous prenez la communication. Et à ce moment-là, vous êtes le plus exposé au champ électromagnétique, donc de haute fréquence, suivant le modèle de GSM, donc 900 MHz ou 1800 MHz, vous allez avoir une densité de puissance émise contre l'oreille qui peut être relativement importante. Alors il faut savoir qu'il y a un certain taux d'absorption au niveau des tissus, donc au niveau de la chaleur, qui peut être calculé. Donc je précise, c'est un calcul. On n'a pas fait de mesure à l'intérieur d'un cerveau avec une sonde en tenant compte des différents tissus. On l'a fait dans des liquides qui physiologiquement ressemble à celui du corps humain. Je pense aux études du professeur Kusters, donc de l'université de Zurich, je pense en Allemagne, qui ont démontré ces influences d'échauffement au niveau de la Terre.
Mais je vais revenir à la position du GSM. Benoît Loup, vous conseillez...
Écoutez, je ne conseille rien. Moi, je préfère ne pas utiliser un GSM pour ma part. Je dirais simplement que le fait de le mettre à la ceinture et d'avoir donc une oreillette avec un écouteur dans l'oreille, c'est peut-être intéressant, mais il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau de quand on le porte à la ceinture, on va peut-être le porter du côté droit et on expose le foie et peut-être aussi des glandes qui se trouvent à cet endroit. Il faut quand même faire attention, je pense, à cette exposition qui est à la fois un échauffement d'un degré pour à peu près un quart d'heure, 20 minutes de communication, ce qui n'est pas rien, somme toute. Et indépendamment de ça, il y a des résonances électromagnétiques entre les cellules et le rayonnement. Ça, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça sur antenne.
Donc, il vaut mieux le laisser dans son sac ou
L'utiliser, je dirais, pour des raisons de sécurité, je crois, ce serait l'idéal, mais faire dévier tous ces appels professionnels dessus, je vais peut-être à l'encontre de l'intérêt économique des sociétés de télécommunications, mais c'est vrai que quelque part...
Ou l'intérêt économique des sociétés de sac à main, une petite
sacoche. De sac à main, par exemple. Oui.
Monsieur Michel, une réaction peut-être courte par rapport au GSM. Vous, comment vous positionnez en tant que médecin?
Moi, je ne donne pas de conseils particuliers, hormis, je dirais, ne pas utiliser son GSM dans l'enceinte d'un hôpital pour des raisons de sécurité. Mais je dirais que c'est la même chose pour une télécommande. Quel est le danger d'une télécommande de télévision, qui pourtant sont utilisées depuis bien plus longtemps que les GSM? Ces télécommandes induisent aussi toutes sortes d'ondes auxquelles nous sommes exposés tous les jours en regardant la télévision.
La télécommande.
Oui, la télécommande, bon, c'est un rayonnement infrarouge, éventuellement en hyperfréquence, s'il en existait aujourd'hui, c'est principalement de l'infrarouge, dont la zone d'action est très limitée. Et puis finalement, le GSM, lui, implique une tension en haute fréquence beaucoup plus importante au niveau du réseau électrique, donc au niveau des structures de câbles, de câblage de l'installation électrique. Il peut y avoir une tension parasite qui va rentrer sur ces câblages, c'est ce qu'on appelle des problèmes de CEM, de compatibilité électromagnétique. Et si vous avez un appareil d'assistance respiratoire qui peut être parasité par cette haute fréquence qui passe dans le réseau électrique, il pourrait s'arrêter de fonctionner, ce qui est grave pour la personne évidemment qui est en dessous.
Alors Benoît Loup, revenons à la chambre à coucher dans la maison, puisqu'on évoquait la fameuse télécommande. Vous déconseillez bien sûr en tant que spécialiste des pollutions électromagnétiques de placer une télévision dans une chambre. Est-ce que la télécommande pour vous est plus nocive que le transport?
Il ne faut pas mélanger tout, ce sont des rayonnements tout à fait différents.
On entend tellement de choses, comment voulez-vous que
d'abord,
nous y retrouvons?
Bon, écoutez, il y a des conférences, il y a des séminaires de formation que nous organisons sur le sujet à l'attention à la fois de spécialistes, de médecins, d'ingénieurs, d'électriciens, mais de monsieur et madame tout le monde. Nous avons ces documents scientifiques. Non, absolument pas. Je suis très calme, vous savez. J'ai ces documents scientifiques traduits en français au bureau qui sont à la disposition des gens qui le souhaitent. Donc il suffit de passer un petit coup de fil chez nous, on vous enverra donc ces documents scientifiques.
Donc vous êtes un bureau de spécialistes en
d'études, un bureau d'études. Conseil en pollution électromagnétique, voilà. Alors, on est très très ouvert, vous savez, à l'information, à la fois dans un sens comme dans l'autre, mais ce que nous constatons, c'est que les gens finalement sont victimes de tout un système qui est imposé pour des questions d'utilité publique, et finalement, par rapport à ça, les recours sont souvent difficiles et impliquent des problèmes juridiques parfois importants, ne fût-ce qu'au niveau des droits de l'homme. Bon, soit, ça c'est pour le problème des influences beaucoup plus importantes.
La chambre à coucher, on
va donner votre numéro après. L'influence de la télévision est quelque chose, vous savez, quand la TV est allumée, respectez une distance d'un mètre cinquante, vous ne risquez absolument plus rien au niveau des rayonnements. Je ne suis pas contre la télévision dans une chambre à coucher, je serais plutôt contre la présence d'un radio-réveil qui émet un champ magnétique et électrique 50 Hz. Vous savez, quand vous prenez un appareil, vous voyez derrière 220 volts, 50 Hz. 50 Hz, c'est le rythme de l'onde, c'est la fréquence. Et ce champ électrique et magnétique est émis en permanence, puisque cet appareil consomme du courant en permanence. Et au niveau de la tête du dormeur, ça peut provoquer des troubles d'insomnie assez conséquents. Et suivant certaines intensités que l'on dépasse, on peut aller jusqu'à favoriser certaines tumeurs. Ça, c'est bel et bien démontré.
Et donc la distance que vous conseillez, c'est...
Pour un radio-réveil, c'est un mètre. Mais c'est théorique. Quand on va mesurer sur place, on se rend compte parfois que certains radio-réveils à 50 cm sont tout à fait inoffensifs. Hein, ça, c'est avec l'appareil de mesure étalonné en main qu'on le voit. Et on le voit évidemment sur l'oreiller, mais on mesure toutes les autres pièces aussi pour vérifier qu'il n'y a pas un effet cumulatif entre la cuisine, la chambre à coucher et peut-être le bureau qu'on occupe.
Alors, vous avez peut-être une idée de ce qu'est un géobiologue. On l'imagine parfois avec sa baguette de sourcier, sa baguette, ses appareils électriques. Ben, vous pouvez vous en faire une idée peut-être plus précise si vous téléphonez à Benoît Loup, que vous voulez connaître son métier. Anne Mineur nous a téléphoné de Bruxelles. Benoît nous a dit qu'elle faisait... régulièrement appel à un géobiologue qui venait mesurer les champs électromagnétiques dans sa maison et qu'elle se sentait toujours mieux après son passage, que sa rhumatisme disparaissait. Donc voilà, ça peut faire du bien, encore une fois, ou à la part du psychosomatique ou non. Monsieur Michel Souris. Monsieur Loup, vous êtes convaincu, j'imagine.
Non, je n'ai pas convaincu parce que je ne suis pas pour le fait d'avoir un abonnement chez le géobiologue. Loin de là, quand on a une fois pour toutes défini un problème, que les gens l'ont compris, savent comment le gérer, on ne doit pas revenir. En général, on revient peut-être parce que les gens ont d'autres questions et rencontrent d'autres problèmes, mais on n'a pas d'abonnement chez les gens. Généralement, non.
Eh bien, on peut redonner, bien sûr, les coordonnées d'une part de la Fondation pour la prévention des allergies. C'est le 02 à Bruxelles, hein, le 02 511 67 61. 02 511 67 61. C'est une association de parents, M. Michel, qui s'est mis sur pied avec Mme Rouquet.
C'est ça, donc c'est une association essentiellement de mamans d'enfants allergiques, en particulier d'asthmatiques, puisque l'asthme est la forme la plus grave de l'allergie. Et qui depuis maintenant exactement 10 ans, elles ont fêté leur 10e anniversaire il y a quelques semaines, organisent toutes sortes de manifestations et de réunions d'information, voire même scientifiques, et surtout d'information auprès du public et des parents d'enfants allergiques.
Et vous faites partie du comité d'ailleurs.
Oui, je suis un des membres du du comité scientifique.
Les permanences téléphoniques à la Fondation, c'est pas tous les jours, c'est le mardi et le jeudi, entre 10h30 et 16h30. Vérifiez hein, peut-être en leur passant un petit coup de fil. Puis votre numéro de téléphone, Benoît Loupe, à votre bureau d'études, donc de spécialiste en pollution électromagnétique.
Donc pour toute demande d'information, bien sûr gratuite, hein, nous la donnons gratuitement par téléphone, c'est le 04 355 17 84.
04 355
17 84.
17 84. Puis certaines conférences aussi sont organisées par, entre autres, Nature et Progrès.
Voilà, nous pouvons donner tous ces renseignements si les personnes le souhaitent en me téléphonant, il n'y a aucun problème, ou en téléphonant directement à notre bureau.
Puis nous mettrons aussi toutes ces informations, nous les transférerons sur notre site internet après l'émission, rtbf.be/première. Vous cliquez sur les émissions, c'est simple, vous rentrez dans notre site, tout autre chose, et puis vous pouvez voir les prévisions pour les semaines à venir et les coordonnées de nos invités. Voilà, mais merci à tous les deux, docteur Olivier Michel. Je rappelle que vous êtes donc interniste et spécialiste en allergo-immunologie à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, puis Benoît Loupe, technicien chimiste, éco-conseiller et spécialiste donc en pollution électromagnétique. Nous évoquions donc les pollutions intérieures ce matin, vous vous en êtes rendu compte. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fixe rendez-vous demain pour Alternative Business avec Pierre Verberen. À demain.